Je suis ton père.
Auditeurs, bienvenue sur Mondes Imaginaires, l'émission que vous regrettez déjà d'avoir eue dans vos horaires pour le 25 décembre. En effet, pour cette émission, on a décidé de se lâcher et de vous faire le jingle le plus mauvais de toute l'antenne de La Fabrique. Ceci étant chose faite et Johanna et Jess s'étant repris de leur fou rire, nous pouvons donc commencer sur les meilleurs augures pour vous parler de tout ce qui existe au niveau de la SF Fantasy Fantastique concernant Noël. Alors, on vous avertit tout de suite, on a un tout petit peu galéré pour trouver du contenu, notamment une actu, mais on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec l'actualité de ce mois. Alors, comme je l'ai dit en intro, on a pas mal galéré pour le trouver, et finalement, je remercie d'ailleurs Guillaume, le libraire de Payot Rive Gauche. Alors d'habitude, je fais pas de promo, mais il est quand même très très bon, donc si vous voulez des conseils au niveau de la littérature, de l'imaginaire, allez le voir. Qui tout d'un coup me dit « Ouh, attends, le 7 décembre, il y a un manga qui sort, ça s'appelle Père Fouettard Corporation ». J'ai un peu sauté sur l'occasion parce que je savais pas quoi faire. Et donc, j'ai lu, je pense, une des publications les plus what the fuck de cette fin d'année. C'est un manga qui est sorti chez Kurokawa. Ça s'appelle, comme je l'ai dit, Père Fouettard Corporation et c'est un seinen. Pour ceux qui connaissent pas très bien le manga, comme moi, le seinen, c'est une publication pour jeunes adultes, a priori mâles, contrairement au shonen qui est en fait une publication pour plus jeunes hommes type ado. Mais je vous rassure, mesdames qui nous écoutez, c'est une publication plutôt tout public, parce qu'en fait, certes, le héros est un jeune homme, mais c'est un peu... Enfin, il n'y a pas de truc sexualisé, ce genre de choses. Tout le monde peut lire ce bouquin. L'idée, qui est signée Hikaru Nakamura, qui a en fait signé une première précédente série qui s'appelait Les Vacances de Jésus et Bouddha, donc autant dire qu'elle ne respecte rien, était de faire une série sur Noël. Le pitch, c'est l'histoire de Miharu, qui n'a pas de job qui fixe, qui a 22 ans, parce qu'il ne faut pas croire au Japon, c'est aussi la crise, et qui enchaîne les CDD pourris. En l'occurrence, au moment du début, au début de notre histoire, il travaille dans un supermarché avec un patron naze, un collègue bon acheté à la poubelle, qui le plante bien entendu le soir de Noël pour aller s'envoyer en l'air avec sa petite amie, de manière absolument pas, polie par rapport à la petite amie en question. Et donc il se retrouve tout seul, le soir de Noël, à fermer le magasin, et il est censé jeter les invendus à la poubelle. Sauf que au lieu de jeter tous les invendus, il décide de piquer un gâteau de Noël qui était à 50%, et puis de l'embarquer chez lui. Manque de bol, sur son trajet, il va rencontrer un homme en noir, sans visage, qui tient un food truck où il vend des tripes. Et cet homme est un peu bizarre. Il lui tient une théorie sur les méchants garçons qui sont punis à Noël quand ils ont fait des bêtises pendant l'année. Et il explique à Miharu qu'il a volé. C'est donc un méchant garçon, il doit donc être puni.
Avec le fouet et tout ?
Ah non, il n'y a pas de fouet. Par contre, il y a une espèce de gigantesque sac type hôte du Père Noël qui, en fait, l'avale tout cru. Avec des grosses dents et de la bave et des trucs un peu rigolos au
ça
niveau du
bien.
Dessin. Voilà.
Ah ouais, c'est donc, punitif, genre radical, quoi.
C'est ça. Sauf qu'en fait, tu ne meurs pas.
Ah, t'es déchiqueté, mais tu ne meurs pas.
Ah, je ne sais pas si t'es déchiqueté. Toujours est-il que... Parce que ça, on ne nous le dit pas. Ah. Mais Miharu, le lendemain matin, il se réveille, pas chez lui, dans un lit assez confortable au demeurant. Mais en fait, il s'avère qu'il est au pôle Nord, dans le manoir du Père Noël.
Ouais, dans le genre punition, on repassera, sérieux, c'est cool. Alors, il devient le lutin du Père Noël.
Alors, on lui propose effectivement un job, un CDI, super bien payé. On lui propose de bosser pour le Père Noël. Sauf que ce qu'on apprend assez vite, c'est que le Père Noël, il est mort de vieillesse, il n'y a pas longtemps. Et que c'est le Père Fouettard qui a repris le business. Voilà, vous venez de comprendre pourquoi, what the fuck. Donc c'est le Père Fouettard qui a repris le business, et donc le business est principalement de châtier les mauvais garçons et mauvaises petites filles. Je vous en dis pas plus, parce que ça vaut la peine de le découvrir, l'univers est chouette, il y a quand même de très jolis dessins, notamment du Pôle Nord et du Manoir du Père Noël. Les planches sont chouettes aussi, elles sont assez bien conçues, assez bien calculées. Le Père Fouettard est vraiment très très joli au niveau du design. Et sincèrement, c'est totalement décalqué. Il y a rien à dire, c'est drôle. Alors, tu ris, puis aussi tu ris jaune. Il faut quand même savoir qu'ils sont spécialisés dans la détection de garnement, donc des fois, c'est un peu cradingue comme ils font les choses. Donc, si vous en avez marre des contes traditionnels, puis que vous avez envie de lire un truc qui se lit assez vite, bon, à l'envers, on rappelle pour ceux qui ne lisent pas du manga, eh ben moi, je vous conseille Perfoetar Corporation.
Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. J'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu j'ai remis du bois, dans la cheminée y'avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar, ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Et elle m'a dit d'une voix très belle, bye bye au hasard Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar.
Je suis un livre.
Non, je suis une BD. Non, 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 je suis un film.
Il était une fois, une veille de la nuit de Noël, de la nuit de Porcher.
Tu devrais voir la tête de Johanna, elle a déjà perdu.
Moi, je me suis déjà perdue moi-même.
La guilde des assassins reçoit des êtres étranges, les contrôleurs. Ceux-ci sont maîtres de l'ordre de l'univers et trouvent les humains un peu trop créatifs. N'oublions pas que nous sommes sur le disque monde. Donc, l'univers se résume à une tortue qui porte 4 éléphants qui portent un disque. Ce contrat un peu particulier est la mort du père Porcher, qui ressemble à notre père Noël.
Non mais c'est bon, on est dans la tête de Pratchett, tout va bien.
Oui. Alors justement, Terry Pratchett a écrit ce livre en 1996 et il s'appelle Le Père Porcher, tout simplement. On va donc partir au sauvetage du gros bonhomme avec Suzanne. Alors qui est Suzanne? Peut-être que vous la connaissez déjà dans certains autres livres de Pratchett. Il s'agit de la petite fille de la mort. Mais pendant qu'elle part à la recherche du gros bonhomme rouge, il faut quand même bien que les cadeaux se distribuent. Qui va donc s'atteler à cette tâche? La mort en personne va mettre une fausse barbe, un coussin, et va essayer de mettre un peu de joie dans son ho ho ho. Nous partons donc dans le disque monde, comme d'habitude avec un Terry Pratchett complètement farfelu, complètement fou d'humour, avec un méchant qui s'appelle l'heure du thé. Mais qui préfère qu'on l'appelle le redouté. Tout dépend comment est-ce qu'on prononce les lettres. Et surtout, grâce à ce livre, Pratchett nous emmène sur le thème de Noël, mais comme on ne l'a jamais vu. Que ce soit croyance populaire, fête commerciale, mais aussi innocence de l'enfance. Et pas que sur Noël, mais aussi sur les autres croyances en général. La fée des dents, par exemple. Donc on parle aussi sur tout ce qui est des croyances des enfants, de l'innocence, de l'imaginaire, contre l'ordre.
Donc en fait, c'est l'inspiration du, comment ça s'appelle ? Les cinq légendes ? Le film qui était sorti avec la fée des dents et le lapin de Pâques.
Ah
et...
ouais.
Alors il parle pas de tout ça. Il parle vraiment de la fée des dents. Il y a surtout la fée des dents et le père Porcher. Le père Porcher, l'histoire de pourquoi Porcher est décrit dans le livre, je ne vais pas vous le spoiler bien sûr. Et surtout, s'il ne retrouve pas le père Porcher, le soleil ne se lèvera pas. C'est quand même super important. Et la fée des dents est très importante aussi dans ce livre, mais on parle aussi du marchand de sable, d'autres figures mythologiques, mais on les mentionne plus qu'on les croise. On parle aussi du lutin des verrues, enfin d'un truc un peu bizarre, le lutin de la...
lutin des verrues.
Ouais, de la calvitie aussi, du dieu de la gueule de bois. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il y a un film...
pardon,
la tête
pardon.
De Joanne est toujours aussi incroyable.
Non, c'est pardon. Du Terry Pratchett.
Ouais, pardon, je suis pas habituée au Terry Pratchett. Le seul Terry Pratchett que j'ai lu, c'était là, le sauveur du monde. Enfin, voilà, pardon, continue.
Pas de souci, il y a un film qui est sorti, parce qu'ils sont quand même arrivés à faire de tout ça un film. Qui est en fait deux téléfilms qui sont sortis en 2006, qui faisaient chaque fois une heure et demie. Et en 2007, pour Noël 2007, M6 en a fait un feuilleton en fait, de quatre épisodes qu'ils ont sorti, qu'ils ont appelé Conte du Disque Monde, parce qu'ils n'ont pas voulu l'appeler, je pense, le père Porcher. Ou alors peut-être pour faire plus, hey, on parle de Pratchett. Et qui reprend très bien l'histoire de base. Et un petit peu, ça tourne un petit peu au ridicule des fois, mais c'est assez drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié.
Même dans sa tournée ridicule avec Pratchett.
Ouais, c'est un petit peu normal. Mais on va dire qu'il y a des fois, l'écrit donne bizarrement en visuel.
Mais quand t'as un lutin des verrues ou de la calvitie ou des pieds tordus, il y a un moment
ou un monstre c'est... mangeur de chaussettes.
Ouais, voilà. Il y a un moment où c'est normal que ça tourne en ridicule. Pardon. Est-ce que vous connaissez Krampus ?
Oui !
Ouais ?
Oui.
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je dois avouer que jusqu'à il y a à peu près 2 ans, je ne connaissais pas Krampus. Krampus est une créature mythique, moitié homme, moitié chèvre. Puis moitié démon aussi, en fait. Qui est issu du folklore des pays de l'Est, style Croatie, République tchèque, Slovaquie, etc.
Et il est très souvent associé à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qu'on fête le 6 décembre et qui distribue des cadeaux qui ressemblent un petit peu au Père Noël au niveau de l'iconographie. Et Krampus accompagne toujours le Saint-Nicolas. Donc Krampus, c'est un nom qui vient du haut allemand qui signifie griffe. Et dans ces pays de l'Est, on a une tradition qui veut que le 5 décembre, donc la veille de la Saint-Nicolas, des jeunes hommes se déguisent en Krampus et se baladent dans les rues pour punir les enfants qui n'auraient pas été sages en distribuant des bouts de bois ou alors en les frappant.
Un petit peu... Black Peter, dans d'autres cultures. Pierre le Noir, Pierrot le Noir.
Ouais, oui, oui, c'est tous ces personnages-là un petit peu mêlés, enfin qui se sont mêlés avec le temps, ouais, exactement. Donc le 5 décembre, dans ces pays de l'Est, c'est connu comme la Krampusnacht, donc la nuit de Krampus. Et on dit que si on survit à la nuit de Krampus, on a le droit d'avoir des cadeaux à la Saint-Nicolas.
Ah, donc en fait, il faut les mériter.
Il faut mériter les cadeaux.
Mais ça, c'est quelle que soit la culture, hein.
Donc là, Krampus punit les enfants en passage, et puis ceux qui passent le test, on va dire, méritent des cadeaux. C'est comme notre père Fouettard, finalement. Alors, moi, j'ai découvert ce personnage via un film qui est sorti en 2015, qui s'appelle Krampus. Wikipédia le définit comme une comédie horrifique américaine. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ça a été réalisé par Michael Dougherty, qui est le scénariste de X-Men 2.
Mm-hmm.
Voilà, donc Anne, déjà, est pas hyper...
Non, j'ai rien contre les X-Men, mais le lien entre Krampus et les X-Men est un peu dur dans ma tête.
Ouais, mais j'ai essayé de trouver un
autre film connu qu'il a fait, puis il n'y a pas.
Voilà, il n'y a pas. C'est un peu ça. Mais ce film n'est pas un coup de gueule. Ce film est un coup de cœur.
D'accord.
Je dois quand même à le préciser. Alors, Krampus nous raconte l'histoire d'une famille, une famille comme les autres. C'est presque Noël, parce que là, on est visiblement dans un... Enfin, ils essayent de faire genre qu'on est un peu dans un pays où on connaît Krampus. Donc, on doit être début décembre. Donc, la famille se réunit, il y a un repas, etc. On rigole, on se retrouve, on s'amuse, qu'est-ce qu'on se marre. Mais pas dans la famille de Max. Parce que dans la famille de Max, on s'envoie des fions à table avec le sourire, on se prend la tête et on s'engueule. Alors, le petit Max, il est un petit peu dépité. Il est un petit peu dégoûté. Il ne croit plus en la magie de Noël. Alors, il déchire la lettre qu'il avait écrite pour le Père Noël, pas pour le Saint-Nicolas. Hein. Mais bon, ça, c'est les incohérences à l'américaine. C'est pas très grave. Et c'est là que tout part en vrille, en fait. Il déchire sa lettre... Il l'envoie par la fenêtre et tout d'un coup, une tempête de neige s'abat sur la ville.
Je dirais, hop, Mary Poppins. Mais en fait, non. On n'est pas dans le même film.
Pas du tout.
Je crois que ce n'est pas le même ton.
C'est ça.
C'est pas le même ton, non. Non, alors il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus de contact avec les voisins parce qu'on n'arrive pas à trouver les voisins, en fait. On sort, on ne voit rien. On voit rien à deux pieds devant soi. Et puis...
Vortex.
Non. Quoique, je dis pas plus parce que sinon je vais spoiler. Mais il commence à avoir des trucs bizarres qui se passent, des créatures un petit peu cheloues qui se baladent dans la maison, des ours en peluche tueurs, des clowns avec des grosses dents. T'adorerais, Jess. Et bientôt, on commence à retrouver dans la neige des traces de pattes de bouc. Krampus est là.
Chouette. Ça me donne très envie de voir le film jusque-là.
Alors, Wikipédia, je vous ai dit, le définit comme une comédie horrifique américaine. Donc, ça essaye de faire un petit peu style film d'horreur, mais on n'en est vraiment pas là parce que franchement, on se marre pendant le film.
Moi, je n'avais pas vraiment rigolé. Bon, je l'avais regardé toute seule dans le noir.
Ah non, mais moi, j'ai tellement ri. Je l'ai tellement aimé, ce film. J'ai trouvé hyper cool parce qu'on n'est pas du tout dans ce côté où on a une famille qui s'entend hyper bien ou alors une famille qui se tape sur la gueule mais qui finit par se réconcilier à la fin, etc. On est vraiment sur les fêtes, ça fait chier. On se voit parce qu'il faut qu'on se voit parce que c'est Noël. Et puis, on a ce personnage qui arrive un peu en punition pour ceux qui ne respectent pas cet esprit de Noël. Et franchement, je trouve assez chouette.
Donc Krampus parle anglais. Hein.
Krampus ne parle pas.
Ah bon, alors ça va.
Krampus ne parle pas. D'ailleurs, j'ai trouvé assez cool parce que du coup, il n'y a pas ce cliché avec la grosse voix un peu. Voilà. Donc, je l'ai trouvé assez sympa. Les personnages sont assez fun. Ils se retrouvent dans des situations improbables. Et puis, franchement, vous faites quoi si vous vous retrouvez face à un ourson tueur? Vous réagissez comment? Eh bah, franchement, les gars, ils voient un ourson tueur arriver. Ils sont un peu là, genre, mais vous êtes sérieux, les gars? Et puis, quand ils se rendent compte qu'en fait, ils risquent de leur bouffer une main, ils réagissent. Puis, j'ai trouvé finalement les réactions assez réalistes, si on peut dire. Donc voilà, le casting est assez cool. Mention spéciale au gamin qui joue Max. Je l'ai vraiment trouvé fun. Et puis, bah voilà, ça change quoi. Donc, si vous en avez marre des films de Noël basiques, Un amour pour Noël, hein, référence au téléfilm pourri de M6 l'après-midi, ou des Noëls avec Scrooge ou le Noël de Mickey.
Mais j'en parlerai du Noël de Mickey, alors on se tait maintenant.
Alors, j'ai rien contre, mais si vous voulez un truc qui change un petit peu. Eh ben, et à Krampus. Et puis, voilà, si vous aimez pas Noël, que vous avez envie de casser la gueule à votre famille, eh ben, je vous assure, c'est un défouloir. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui auraient reconnu la mélodie, donc, c'est une adaptation d'une chanson qui s'appelle Carol of the Bells. Et là, elle a été adaptée exprès pour le film Krampus. Donc, si vous allez checker les paroles, vous allez sur YouTube et puis vous trouverez des vidéos avec les lyrics. Et vous verrez qu'en fait, les paroles ont toutes été changées pour parler de Krampus qui va venir punir les enfants au passage. C'est assez fun.
Si je vous dis Tolkien, vous me dites quoi ?
Seigneur des Anneaux !
Voilà, entre autres. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait le Hobbit aussi, nous sommes d'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Le film Marion,
les contes et légendes inachevées,
bon, allez,
etc.
Accouche !
Si je vous disais que pendant 23 ans, Tolkien a écrit des lettres à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël.
J'avoue, j'ai cheaté. J'ai demandé à mon libraire favori et c'est lui qui m'en a parlé.
Et c'est toi qui m'en as parlé après.
Oui.
Mais bref.
Moi, je vais faire comme si je savais pas.
Oh, t'es
non,
trop chou,
c'est
merci.
Vrai.
Oui. Donc, Tolkien...
C'est néanmoins très chou, que ce soit dit.
Oui.
Ah bon.
Moi, je veux faire la même chose pour mes enfants. Enfin, bref.
Moi, je dessine pas assez bien.
Oui. Parce que, effectivement, je pense qu'il est, bien de préciser que ce livre retranscrit les lettres qui ont été retrouvées, quasiment toutes, qui ont été écrites par Tolkien en se faisant passer pour le Père Noël.
Ou l'ours du pôle Nord.
Ou l'ours de Great Bear. Et elles ont été scannées, et c'est pas forcément que les lettres, c'est aussi les enveloppes. Et il y a énormément de dessins qui ont été faits par la main de Tolkien. Et c'est quelque chose, en fait, on se rend compte que ce mec avait un talent partout. Enfin, il écrit bien, il fait des histoires super bien.
Il est un top linguiste parce qu'il a créé des langues.
Exact. Et il fait des bons dessins. Alors,
Alors, moi, je pense que pour contrebalancer, à tous les coups, il chantait comme une casserole.
Il faut, mais il n'avait pas vraiment de douche tous les jours.
Mais on n'a aucune preuve. Si ça se trouve, on retrouvera des enregistrements.
Non. Moi, j'ai décidé qu'il chantait comme une casserole. Continue.
Donc, toutes ces lettres ont été retrouvées et publiées par Bailly Tolkien, qui a sa deuxième épouse, en 1976, mais il en manquait encore quelques-unes. En 1999, il y a une réédition, et en 2004, enfin, la version finale a été publiée par HarperCollins. Pendant donc plus de 20 ans, il a écrit ces lettres qui relatent l'histoire du Père Noël au pôle Nord, qui donne de ses nouvelles, qui, en plus, quand il écrit, a une écriture toute tremblotante, parce qu'il est vieux, et on a les histoires du grand ours polaire, qui est le compagnon, même l'assistant du Père Noël, et qui va faire mais que des bourdes, en voulant à chaque fois aider. Par exemple, le Père Noël, il y a son chapeau qui s'envole, qui va sur une sorte de pic, et en voulant aller le chercher, ben, l'ours casse le pic, qui détruit la maison, et donc il va falloir redéménager, etc. etc. Il y a plein de petites histoires qui parlent aussi de gobelins qui tout d'un coup... adore la mécanique, tout ce qui est ouais, vraiment le métal, etc. et qui viennent cambrioler les caves du Père Noël pour prendre tous les trains. Et c'est pour ça que les enfants de Tolkien n'ont que certains trains et n'ont pas toute la collection, parce que les gobelins en ont piqué une partie et que le Père Noël et l'ours ne sont pas arrivés à tous les récupérer. Donc il y a plein de petites histoires qui peuvent, si on essaye de lire entre les lignes, expliquer peut-être les cadeaux qu'ont reçus les enfants, ou peut-être les difficultés des fois économiques qu'a peut-être eu Tolkien en un certain temps. Et j'ai trouvé ça mais vraiment magique, et il y a vraiment cette innocence, et on voit que les enfants n'ont pas arrêté d'envoyer des lettres déjà mi-novembre voire mi-décembre, parce que le Père Noël répond déjà à des lettres entre temps, et je trouve vraiment cette correspondance super chou. Elle est pleine de magie, d'innocence, d'histoires à raconter. Je trouve juste un peu dommage qu'on n'ait pas les lettres des enfants. Ça aurait vraiment été mais super chouette. Après, ben, je pense qu'elles ont été à droite, à gauche, difficile de les récupérer. Et puis, qu'on doive lire entre les lignes pour essayer de reprendre le contexte de la vie de Tolkien. En fait, j'avais l'impression d'être un peu comme une historienne devant un recueil de sources, et que de ne pas avoir tout le contexte qui va derrière, de devoir essayer de chercher un petit peu.
À part ça, tu ne penses pas tout simplement que Tolkien a dû détruire les lettres des enfants au fur et à mesure?
Pour ne pas les retrouver?
Parce que les enfants ne pouvaient pas les retrouver à la maison?
Peut-être. C'est une des explications possibles, effectivement. Et voilà, enfin, tout ça pour dire que si vous voulez lire des lettres à vos enfants, si vous avez envie de vous inspirer de ça pour écrire des lettres à vos enfants, si vous voulez vraiment quelque chose de pure innocence et drôle et magique, ben, encore une fois, Tolkien est la référence.
Here comes Saruman, here comes Saruman, right down Isengard's lane. He thinks the leaf that the hobbits smoke has addled Gandalf's brain. Turns out he's in league with Sauron, he admits it outright. So Gandalf tried to bash in his head, but Saruman won the fight. Here comes Saruman, here comes Saruman, he is after the ring. He's making armies of Uruk-hai to track down the halflings. He's been using a palantir which wasn't terribly bright. So Frodo better get out of the Shire before it all comes to light. It's beginning to look a lot like ring rays. Everywhere we go, at the ferry we crossed, and then the prancing pony inn, where we met a ranger we didn't know. It's beginning to look a lot like ring rays. Riders dressed in black, and they sounded extremely ticked when they found out they'd been tricked into stabbing a sack. Well, when we reached the top, we decided to stop, and we're cornered by the Nazgul. Frodo decided to put on the ring and was stabbed, the poor little fool. And I don't want to be the one to clean up all his drool. He's beginning to look a lot like ring rays. Soon he'll be like them. Take a look at his cloudy eyes. He's breathing in raspy sighs. What he needs now is elvish medicine. He's beginning to look a lot like ring rays. Soon the change will start.
But then no one chose to transfer the grease that was meant for her right to Frodo's heart. Over the river and through the woods till Elrond's house she goes. Arwen's horse is the way to keep Wraith at bay, though they're getting awfully close. Over the river and through the woods the horse-shaped water grows. The wave she knows will stop her foes as over the falls they go. I saw Arwen kissing Aragorn on the bridge at Rivendell last night. They didn't hear me sneak to the stream to take a leak. I barely could make out that elvish prattle that they speak. And I heard Arwen telling Aragorn that she'd gladly choose a mortal life. What a scene it would have been if Elrond had only seen Arwen kissing Aragorn last night. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Gimli said this was a mine. I think he must be insane, for the only thing we find is decaying dwarf remains. Moria is a fancy cave, oh, Moria. Now it's just a grave, you know. Mithril and gold, mithril and gold. I've got a vest made of mithril and gold. Few people know what it's worth. It could buy Bag End here in Middle-earth. Mithril and gold, mithril and gold. Mean so much more when I see that it protects me from cave trolls that try to skewer me. Giant ball, giant ball, giant ball rock. He's made of shadow, he's made of flame, smoking and blowing out pillars of fire. Now our situation is dire. Giant ball, giant ball, giant ball rock. See the orcs climb in near record time. Rather than stand around trembling in fear, let's get out of here. What a fright time, it's the right time to run the heck away. Rivendell time was a swell time. I wish we'd have made a longer stay. So hurry up, Aragorn, make your retreat. Let's hurry up the plot. This huge evil will end up defeat. That's the giant ball, that's the giant ball, that's the giant ball rock.
Pas un bruit. Et faites attention, je vous l'ai déjà répété 300 millions de fois.
Je m'appelle Andy Warner et je suis un zombie. Ce n'est pas quelque chose qu'on est vraiment prêt à admettre. L'alcoolisme, l'addiction sexuelle, les problèmes de jeu, ça oui, ils sont indissociables de la condition humaine. Mais jamais vous ne prévoyez de vous réveiller un jour avec un cathéter dans la carotide et vos cavités bourrées de fluides conservateurs d'autopsie. Se réveiller d'entre les morts demande un gros effort d'ajustement. Un peu comme traverser la puberté. Sauf qu'on ne se débarrasse jamais totalement de l'acné ni de l'odeur.
Alors, ce qui est assez cool, c'est que maintenant, c'est à Jess de tirer un peu une tête, genre. Hein
genre, Burk.
Alors, je vous présente le jour où les zombies ont dévoré le Père Noël.
En fait, on a fait que des trucs hyper glamour, quoi. À part toi qui t'en sors bien avec tes contes de Tolkien.
Pour une fois, c'est moi qui suis la gentille petite fille sage et innocente.
Ouais, mais oui, je... bah alors pas longtemps. Hein.
Ouais, mais alors je pense que ça reflète bien mon esprit à la preuve, en ce jour de Noël ou à l'approche de ce jour de Noël. Ouais.
Johanna aime Noël, d'accord.
Oh, attends, cette année ça me saoule.
Voilà.
Du coup, je vous avoue qu'entre Krampus et le jour où les zombies ont dévoré le Père Noël, j'étais contente. Je me suis dit, c'est cool, j'ai le droit d'être cynique.
Et alors là, niveau cynisme, on atteint une sorte de paroxysme avec S.J. Brown, une auteure, je n'ai pas réussi à déterminer, des États-Unis. Donc le jour où les zombies ont dévoré le Père Noël, c'est le tome 2 du livre « Comment j'ai cuisiné mon père, ma mère et retrouvé l'amour ». Donc vous le sentez, hein, qu'on est vraiment sur quelque chose de très 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 ironique. Ce tome 2 est sorti en 2014 et vous savez ce qui est assez dingue, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2, le comprendre et l'apprécier, parce que moi j'ai pas lu le tome 1. Donc c'est l'histoire d'Andy qui est devenu zombie suite à un accident de voiture. Sa femme est morte mais pas lui, il a pu ressusciter pour une raison qu'on ignore complètement. Et donc le tome 1 raconte comment est-ce qu'il a décidé de se battre pour les droits des zombies, parce que oui, les zombies ont beau ne plus respirer, eh bien ils ont des sentiments.
Bah oui, et puis ils sont encore humains.
Ouais, alors il y en a qui discuteront sur la notion d'humain.
Ouais, bon, ils en ont à peu près l'apparence, avec des petits morceaux qui partent, mais ils en ont l'apparence.
Voilà, puis des vers qui sortent du bide et compagnie. J'espère que vous penserez à moi en mangeant votre foie gras. Alors,
j'imagine les petits vers dans le foie gras maintenant. Merci, Jonah.
Donc, dans ce tome 2, Andy est enfermé dans un laboratoire où il subit des expériences grâce auxquelles les scientifiques espèrent pouvoir expliquer la raison pour laquelle il a ressuscité lui et d'autres, parce que ça, le phénomène ne se limite pas à lui. Mais on est devant une totale incompréhension. On ne sait pas pourquoi certaines personnes meurent et meurent pour de bon, alors que d'autres ressuscitent plus ou moins. Et donc voilà, il subit des expériences totalement affreuses, mais vraiment des trucs trashos. Mais bon, lui, à la limite, il s'en fout parce qu'il ressent rien. Physiquement, il ressent pas la douleur.
Mais quel est le lien avec le Père Noël ? Jusque-là, j'ai pas encore suivi le fil.
Ça vient. Alors, heureusement, quand même, pour la protection des animaux, il y a des sociétés de protection des zombies. Et un jour...
C'est un monde évolué.
Un jour, Andy est libéré, ainsi que ses autres collègues zombies. Ils sont tous libérés et peuvent s'enfuir du laboratoire. Mais ils sont libérés la veille de Noël et il fait froid dehors et il faut trouver une cachette. Alors du coup, Andy part dans la forêt, puis il se retrouve en ville. Et pour se fondre dans la masse, il chope un costume de Père Noël.
Ah bah voilà.
Voilà. Et il se retrouve à devoir leader un groupe de zombies rescapés et à être le nouveau...
Zombie Noël ?
Non, le nouveau...
Moïse.
Il y a une petite fille qui se prend d'affection pour lui, en fait, parce qu'elle est persuadée que c'est le vrai Père Noël. Comprenez le problème, les zombies, ça mange la chair humaine. Et là, il y a une gamine bien vivante, bien respirante qui leur tourne autour. C'est magnifique. Non, alors, moi, j'adore le ton du bouquin. C'est de l'humour, c'est du sarcasme. Au début, j'avais peur que ça en soit un petit peu trop. Et en fait, c'est juste fun, ça fait du bien, c'est hyper décomplexé, c'est gore juste qu'il faut. C'est un peu crade, c'est hyper incisif et en même temps il y a un petit peu de sentiment parce que bah voilà, on a ce personnage d'Andy qui a un peu tout perdu. Enfin, il a perdu sa femme dans cet accident de voiture, sa fille il peut pas la voir parce que elle est en vie puis que lui bah il est mort et que va expliquer à ta fille que hello je suis ton père et j'aurais potentiellement envie de te bouffer. Voilà, c'est des situations compliquées et franchement, moi j'adore. Le seul petit bémol, c'est parce que sur la plupart des chapitres, on est dans la tête d'Andy, donc c'est un roman à la première personne. Et de temps en temps, l'auteur switch avec des chapitres où on est dans la tête d'autres persos, puis je trouve que ces passages-là sont moins bien gérés, en fait. Parce qu'évidemment, il va pas garder tout le ton hyper incisif et sarcastique pour chaque personnage, ce serait pas cohérent. Mais du coup, on sent une légère baisse quand on passe chez les autres persos. Mais vraiment, c'est s'il y a un truc où il faut râler, je dirais que c'est ça. Mais vraiment, faut aller chercher quoi. C'est hyper drôle.
Et moi, j'ai une question.
Ouais.
Ils distribuent quand même des cadeaux ?
Non. Ben, je pense pas. Non.
Non, ils distribuent pas de cadeaux.
Non.
D'accord, mais en fait, il n'a pas dévoré le Père Noël, alors il a juste trouvé un costume de Père Noël.
Alors, l'histoire du le jour où les zombies ont dévoré le Père Noël, c'est parce qu'en fait, dans le prologue, on commence le prologue 3 jours après le chapitre 1. Donc avec le chapitre 1, on fait un flashback. Et en fait, dans le prologue, on a Andy qui se réveille parce que manifestement, il a dû prendre un coup sur la tête. Et il se réveille et il entend des bruits hyper bizarres et il entend la chanson Jingle Bells. Et il suit un petit peu la musique et là, il se retrouve face à un mec déguisé en Père Noël et qui est en train de se faire bouffer les boyaux par des zombies déguisés en lutins. Voilà, donc c'est...
La revanche des lutins.
Voilà. Donc c'est hyper fun, franchement, c'est... Moi, j'ai tellement rigolé et ça donne presque envie que ce soit Noël, quoi.
Et pour ceux, en fait, qui seraient restés sur le questionnement de savoir si S.J. Brown est un homme ou une femme, sachez, chers auditeurs, que S.J. Brown s'appelle Scott de son prénom, donc autant dire que c'est un homme, et que pour un auteur de SF, il est plutôt joli.
Ah!
Oh!
Ah! What a catchy tune!
Yeah, you're gonna like this one, Doc.
Zombie, 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 with rotten hanging skin. Our game is short and simple, I shoot you and I win.
I shot a little zombie, I blew its head away. And so it couldn't see me, it still wanted to play.
You've lost a couple fingers, your eye pulled out by crows. The maggots really love you, they're coming out your nose.
Oh, zombie, 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 with rotten hanging skin. Our game is short and simple, I shoot you and I win.
I'm liking to shoot zombie, I'm liking to have drink. Zombie killing fun, but vodka better, eh?
My zombie is so peripheral, it follow me around. I give him drink of gasoline, then burn him to the ground.
Zombie, 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 with rotten hanging skin. Our game is short and simple, I shoot you and I win.
I love the smell of zombies. Decaying flesh is hot. They are so wet and sticky, I savor every clot.
Ew.
Too far?
Yeah,
I told you.
You're all decayed and pussy and missing a few parts. But with a well-placed headshot, you'll look like modern art.
You tried to eat my ankles, you tried to eat my brains. My semi-automatic will scatter your remains. Hey!
Zombie is persistent, it's hard for them to die. I cut them into pieces, but hand claw my thigh!
You moan and scream and claw me, and try to ease my head. I can't hold that against you. You're stupid, and you're dead.
I'd like to cut down zombies with my M16. I shoot the using gut bags because they are unclean.
Oh, zombie, 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 with rotten hanging skin. Our game is short and simple, I shoot you and I win!
Bonsai!
Vodka for everyone, especially me!
What a peculiar Christmas song!
It's Hanukkah, dumbass.
Maintenant, il va falloir que j'enchaîne avec la suite de cette prise de notes, suite à cette perle musicale. Non, perso, je trouve ça très drôle, j'espère que les auditeurs aussi. Et moi, je vais vous faire une espèce de pseudo-panorama du film d'animation de Noël. J'ai dit pseudo-panorama parce que le problème, c'est qu'il y en a quand même une chier. Donc moi, j'ai un tout petit peu réduit. Donc, je vous préviens tout de suite, je ne vous parlerai pas du Pôle Express, film au demeurant absolument génial avec le grand Tom Hanks. Mais comme vous l'avez sûrement déjà vu, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler des films que vous avez soit oubliés, soit jamais envisagé de regarder. Dans les films que vous n'avez sûrement jamais envisagé de regarder, c'est un truc qui est passé l'année dernière sur une chaîne genre TF1, donc pas forcément la référence au niveau des bons films, qui s'appelle Mission Noël, les aventures de la famille Noël. Donc en anglais, ça fait moins pire, le titre il s'appelle Arthur Christmas. C'est mieux.
C'est mieux.
Ouais,
c'est
parce
mieux.
Que là, ça pue de fou.
Ça pue de ouf. Sauf qu'en fait, pas du tout. Bon alors, chers auditeurs, je vous préviens, je suis une grande fan de Noël et de l'ambiance de Noël, donc j'aime bien. Donc si jamais, me prenez pas forcément comme référence, on va voir ce que disent Johanna et Jess quand je leur explique le film. Mais... Donc, si j'étais pas vraiment tentée à la base par le titre, j'avais rien à faire, donc je l'ai vu. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur, une énorme surprise. Alors, au niveau du dessin, on n'est pas au top du dessin, hein, mais j'ai trouvé très joli que ça commence par le questionnement de comment le Père Noël fait pour livrer ses centaines de milliards de cadeaux à Noël. Et puis, une autre question, comment le Père Noël transmet son héritage ? Parce qu'on en est, il faut savoir que c'est pas pour rien que ça s'appelle la famille Noël, on en a la Xème génération de Père Noël, et entre-temps, les moyens se sont modernisés. Donc le Père Noël a maintenant une espèce de giga vaisseau, qui en fait, en termes de lumière, fait les petites étoiles du ciel, donc les enfants se rendent compte de lien, le vaisseau arrive, il y a les petites étoiles, et puis surtout, il a une très 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 grosse équipe de lutins qu'il gère comme une armée.
Et qui bouffe les Pères Noël et qui chasse les verrues.
Non, 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 je te rappelle que moi j'aime bien l'esprit de Noël en version mignon. Pas mignon, les personnages de dessins animés, genre en version chou. Et donc il faut savoir que c'est le fils aîné du Père Noël, donc le Père Noël a une famille qui gère tout depuis le QG du Pôle Nord. C'est un vrai QG avec des systèmes informatiques, des décomptes d'enfants, vérifier qu'ils sont dans le bon timing, des go, go, go. Enfin bref, une vraie armée. Militaire moderne, et puis le Père Noël est une espèce de vieux général un peu moumou, qui n'a pas vraiment envie de lâcher son poste, mais qui en vrai sert à rien, parce qu'il passe même plus par la cheminée. Et c'est son fils cadet qui en fait est dépositaire de l'esprit de Noël. Donc le fils aîné, c'est le militaire qui a tout organisé, qui a tout mis des programmes sur son pad, qui envoie des messages, qui fait des calculs, qui a des GPS, enfin, truc de ouf. Puis le fils cadet, en fait, c'est l'esprit de Noël. Il est chouchouné, il sert un peu à rien. Et puis il a commandé au Japon des pantoufles peluches avec des yeux qui font des couleurs.
Oh oui !
Voilà, je pensais bien qu'il y aura un moment où un autre ça te plairait.
Oh mon dieu, mais on est où là ? Sortez la guimauve !
Il est super chou parce qu'en fait il est maladroit, il a peur de tout. Puis on l'a relégué au seul endroit où il peut pas être dangereux : la réception du courrier des enfants. Donc, mais à part ça, c'est hyper chou parce qu'il prend le temps de leur répondre, puis il raconte à tous les enfants qu'en fait le Père Noël il est magique et il est fabuleux. Alors quand tu vois le paternel, tu te dis qu'il y a une espèce de décalage, qu'il a pas tout compris, mais il est en admiration devant ce Père Noël qui est super génial et qui existe et en qui il faut croire. Et c'est assez chou en fait, sauf qu'en fait c'est lui qui rêve. Et moi ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement il y a un vrai questionnement des croyances. Est-ce qu'on a envie de croire au Père Noël ou non? Parce que finalement c'est un... Quel que soit son âge, c'est une posture à avoir, et c'est un peu la posture de ce fameux Arthur, de le fait que le film en anglais s'appelle Arthur Christmas. Et donc moi j'ai bien aimé cette réflexion sur l'esprit de Noël. Alors Johanna n'a pas du tout l'air convaincue, mais on a bien compris que Noël cette année c'était pas pour elle. Jess, ça va. Donc moitié-moitié, choisissez votre camp.
Fondu.
Maintenant, je vais vous parler d'un autre questionnement autour de Noël, c'est le questionnement de la vie. Oui, tu voulais dire.
Pardon, je pensais que Jess avait faim, en fait, je comprenais pas le fondu.
Ah non, c'est
la moitié. Ouais, c'est bon, ça revient.
Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas saisi, de temps en temps, au sein de mondes imaginaires, nous avons des chroniques qui s'appellent les moitiés, et automatiquement, Jess pense à la bouffe. Ceci étant dit, donc je voulais parler d'un deuxième film qui est aussi un questionnement de Noël, c'est le questionnement du bilan de vie, genre on va changer de saison, on va changer d'année, alors il est temps de se poser plein de questions. Alors vous avez tous beaucoup entendu parler, j'imagine, du drôle de Noël de Scrooge avec le grand Jim Carrey, réalisé par Robert Zemeckis, qui s'inspire du conte de Noël de Dickens, mais moi je suis vieux jeu. Je vais vous parler d'un film que vous avez oublié et que j'ai regardé quand j'étais gamine. Et puis il y a Johanna qui a spoilé tout à l'heure, le Noël de Mickey. Alors ok, soyons tout à fait honnêtes, on va parler de Mickey. Donc autant vous dire qu'en termes de dessin, c'est pas le top du top. Et puis, Mickey quoi, donc soyez un peu tolérants. Néanmoins, on se retrouve avec le vieux Scrooge et le jeune Cratchit, qui est le souffre-douleur du vieux Scrooge radin, interprétés respectivement par Picsou et Mickey. Ce qui est assez chou, c'est qu'il y a vraiment toute une mise en situation assez réaliste en fait, de ce Mickey qui est gratte-papier, qui fait de son mieux, qui a froid, parce qu'en fait, il y a une seule espèce de boule de charbon pour réchauffer tout le bâtiment pendant la journée, qui a des enfants, qui a envie de rentrer pour Noël, puis genre, Scrooge, il s'en fout, en vrai. Et j'ai trouvé qu'en fait, cette réécriture, elle était quand même très jolie pour les enfants. Ça permet de montrer ce conte, qui est quand même un conte hyper violent, hyper triste, à des enfants, et moi je trouve que ça actualise toutes les problématiques d'argent, toutes les problématiques de est-ce que j'ai été quelqu'un de plutôt bien dans ma vie ou pas, et pour autant sans en faire un film trop agressif, parce que moi j'ai trouvé que certaines réécritures du conte de Noël de Dickens étaient, je sais pas, trop piquantes presque pour en faire un truc moralisateur, ça devient plus agressif qu'autre chose. Donc moi j'ai bien aimé, en tout cas quand j'étais petite, puis du coup quand je le re-regarde je trouve ça chou, donc voilà. Le Noël de Mickey, ça vaut la peine si vous avez des enfants. Et puis, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas parler non plus de L'étrange Noël de Monsieur Jack ou des 5 légendes ou de L'apprenti du Père Noël qui sont des films qu'on a priori vus ou pas. Sachez quand même que L'apprenti du Père Noël est aussi très très joli et que je l'ai adoré. Néanmoins, moi je vais parler plutôt d'un film qui m'a intriguée. C'est réellement un film d'animation, c'est vraiment un film qui vient du Japon. Il est sorti en 2003, il s'appelle Tokyo Godfathers, donc les parrains de Tokyo. Il est signé Satoshi Kon, qui fait partie un peu de cette mouvance qu'on dit post-Ghibli au niveau de la réalisation des films, même si ça s'était réalisé avant. C'est un film qui m'a été conseillé d'ailleurs à la librairie du cinéma à Genève, donc je les remercie parce que ça a été vraiment une très belle surprise. Ça raconte l'histoire en fait de trois sans-abri, Miyuki qui est une adolescente fugueuse, Jin qui est un homme ruiné et Anna qui est une femme transgenre, qui découvrent un bébé dans les ordures. Alors ils auraient pu s'en foutre parce qu'ils n'ont pas un rond, ils dorment dans la rue, il fait froid, c'est les 6 jours avant Noël. Donc ils auraient pu faire autre chose que essayer de trouver sa mère et c'est pourtant ce qu'ils vont faire. Ils vont suivre plusieurs pistes, certaines justes, certaines fausses. Et surtout ce qui est très beau, c'est qu'on va se retrouver avec des situations assez cocasses ou assez difficiles. Parce que sur ces 6 jours, on va faire aussi un retour sur leur existence à chacun. Et les dessins... J'ai trouvé vraiment le travail du dessin extrêmement intéressant. J'ai trouvé ça beau. J'avoue en fait que j'ai été très touchée par les histoires de chacun de ces personnages. Par contre, si vous attendez un film de Noël avec une ambiance de Noël, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment plus une ambiance dans la rue, dans la ville, dans la cohue des gens qui vont faire leurs courses de Noël ou dans les gens qui sont malheureux à Noël que dans les jolies couleurs de Noël. Donc c'est un film pour toi, Johanna, en l'occurrence.
Ah oui, à fond.
Voilà, mais j'avoue qu'en fait, il m'a surprise, il m'a intriguée. Donc Tokyo Godfathers, ça vaut la peine.
Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, une heure, c'est très, 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 très court pour pouvoir vous parler de tout ce dont on a envie.
Et ce, même si on a eu du mal à trouver les différents ouvrages en question, le problème, c'est que quand on s'y met, on finit par avoir trop.
Voilà. Et en fait, il se trouve qu'il y a une semaine en arrière, je me baladais à la FNAC et complètement par hasard, je suis tombée sur un petit livre, un petit recueil de nouvelles appelé « Un Noël sans nom et autres contes » publié par les éditions de L'Homme sans nom, qui est une petite maison d'édition qui fait des trucs assez sympas. Et alors, j'ai été hyper surprise parce que du coup, ce bouquin à la FNAC était gratuit. Donc, à Genève, c'est la fête. On est content quand ça arrive. Après, je trouve un petit peu dommage d'avoir un aussi joli livre avec un recueil de nouvelles de plusieurs auteurs gratuits, justement. Parce que ça veut dire qu'en fait, ils publient à perte. Donc, je trouve un petit peu dommage, d'autant que c'est cette qualité. Et j'avoue que j'ai un peu flashé sur le prologue où l'éditeur explique que bah voilà, il est éditeur depuis quelques années, il a eu beaucoup de succès, d'autres un petit peu moins, et que là il a deux auteurs en vue qu'il pourrait.
On a dit dont on ne parlera pas.
Oui, mais voilà, qu'il pourrait publier. Et en fait, après, il annonce qu'il va les tuer. Je pense que ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance dans laquelle on se trouve avec ce recueil de nouvelles que je vous recommande chaudement.
Alors dans l'ambiance quand même un peu moins glauque, si vous avez envie de faire autre chose le 24 et le 25 décembre que regarder Arthur et avoir envie de vous pendre face à votre belle famille, je vous propose Joyeux Noël, histoire à lire au pied du sapin et Au pied du sapin, conte de Noël de Pirandello Anderson, Maupassant. Il y a même un texte d'Alphonse Daudet dedans, qui sont des folios de 2 euros. Donc en plus, si vous n'avez pas de fric, ça va. Qui vous permettent en fait de lire des trucs de Noël un peu jolis et un peu différents de ce qu'on trouve d'habitude. Sur ce, il est temps de se dire au revoir, de se souhaiter une bonne fin d'année 2017.
Bonne année, bonne année!
Non, pas encore. Aujourd'hui, c'est Joyeux Noël.
Bah oui, mais on ne les verra pas d'ici là.
Non, on vous retrouve en 2018.
L'année prochaine.
Et pour une fois, on va pouvoir vous dire en direct Joyeux Noël. Noël.
Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. She'd been drinking too much eggnog, and we begged her not to go. But she forgot her medication, and she staggered out the door into the snow. When we found her Christmas morning at the scene of the attack, she had hoof prints on her forehead and incriminating claws marks on her back. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Now we're all so proud of Grandpa, he's been taking this so well. See him in there watching football, drinking beer and playing cards with Cousin Mel. It's not Christmas without Grandma, all the family's dressed in black. And we just can't help but wonder, should we open up her gifts or send them back?
Send them back!
Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Now the goose is on the table and the pudding made of fig. Ah, and the blue and silver candles that would just have matched the hair in Grandma's wig. I've warned all my friends and neighbors, better watch out for yourselves. They should never give a license to a man who drives a sleigh and plays with elves. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe.
Sing it, Grandpa.
Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe.
Christmas.